On est Marseillais à vie.
Salif Keita. Je vais vous raconter le court passage à l'Olympique de Marseille de l'attaquant malien Salif Keita, l'inoubliable panthère noire. La carrière du malien Salif Keita sur la Canebière démarra par un bras d'honneur adressé au président de l'AS Saint-Etienne, Roger Rocher, lors d'un bouillant OM-ASSE des années 70. Suspendu 6 mois en mai 72, il rejoue avec l'OM 6 mois plus tard, jour pour jour, contre Saint-Etienne. Et il est éblouissant et claque un doublé. Après son deuxième but, il se tourne vers la tribune officielle et adresse un bras d'honneur à son ancien président. Un champion individualiste insaisissable. Cet attaquant spectaculaire, embauché par l'AS Saint-Etienne en 67, fut le principal rival du buteur olympien Josip Skoblar. Ces deux buteurs symbolisaient aussi la rivalité féroce qui opposait l'OM de Marcel Leclerc au Saint-Etienne de Roger Rocher. Keita, natif de Bamako, où il vit le jour le 5 décembre 1946, arrive à Saint-Etienne en taxi. Eh oui, en taxi. Depuis l'aéroport d'Orly, après avoir essuyé le refus de deux chauffeurs, Keita trouve un troisième qui accepte de le conduire dans le Forez pour 1060 francs de l'époque, soit 160 euros environ. Une course payée par le club qui ne regrettera jamais. Le successeur à la présidence de l'OM, René Gallian, parvenait à le recruter pour la saison 72-73 en pleine mascarade en raison d'un avenant que le Ballon d'Or africain aurait signé avec son club pour une saison supplémentaire. Dribbleur imprévisible, impressionnant de puissance, il était censé devenir le complément idéal de l'aigle dalmate Josip Skoblar à la pointe de l'attaque olympienne. Le Malien livra d'ailleurs un match tonitruant dès l'ouverture du championnat face à son ancien club, doublé d'un numéro de provocateur. Sa venue à l'OM eut pour effet d'écarter Roger Magnusson, à cause de la règle des trois étrangers. Mais il fut finalement inconstant sous le maillot olympien. Doté d'un caractère bien trempé, il refusa d'être naturalisé français et fila en Espagne, à Valence, de 73 à 76, juste après la plus large défaite de l'OM en Coupe d'Europe, 6 à 0 contre les Allemands de Cologne en 73. En 1976, c'était sous le maillot du Sporting Lisbonne qu'il poursuivait sa carrière, achevée 4 ans plus tard, en 1980, à Boston, aux États-Unis. Sarr Boubacar. Sarr Boubacar était particulièrement musclé et tous les défenseurs de Division 2 avaient peur de lui. On se posait beaucoup de questions à son sujet lors de son arrivée dans le Var sur les recommandations du frère du président du Sporting Club de Toulon, M. Bonadei. C'était en 1973. En moins de 2 ans, il marchait à grandes enjambées vers la notoriété. Il était d'ailleurs la grande révélation de la saison olympienne 75-76. En 11 mois, le colosse sénégalais était devenu le héros surprise de tout un peuple. En son fort intérieur, Bouba, comme on le surnomme encore aujourd'hui, mesurait logiquement tout le chemin parcouru depuis son départ de Dakar un jour de juillet 73. Il songeait sûrement à son transfert inattendu de Toulon à l'Olympique de Marseille en 1974. Lors de cette saison 75-76, l'OM remportait la Coupe de France, la 9e de son histoire. Et Bouba y était pour beaucoup. Pour lui, son union avec l'OM ne faisait que commencer et devait s'achever 9 ans plus tard par un retour en Division 2. Après Cannes, le PSG et New York, ce puissant attaquant revenait sur les terres de ses exploits passés afin de prendre une part prépondérante au retour du club olympien en première division. C'était en 1984. Le sentiment du devoir accompli, il terminait sa carrière de joueur chez le voisin Martégal en Division 2. International, Bouba, qui a incontestablement marqué l'histoire de l'OM et du Paris Saint-Germain, club où il fut durant de nombreuses années l'adjoint d'Arthur Georges, de Luis Fernandez, d'Alain Giresse, Philippe Bergerot ou de Laurent Fournier, a disputé également une quarantaine de matchs avec les Lions de la Teranga, la sélection nationale du Sénégal. Sarr Boubacar a disputé 164 matchs et inscrit 68 buts avec l'OM entre 1974 et 1984. L'Azami Temim, le 7 de carreau. Je vais vous raconter l'histoire légendaire du Tunisien Temim, olympien seulement 6 mois en 1979. L'itinéraire de l'Azami Temim est classique. École de la rue et des terrains vagues à Hammam Lif, une banlieue de Tunis. À l'âge adulte, il brille avec le club sportif Hammam Lif, puis à l'Espérance de Tunis et sous la tunique des Aigles de Carthage. On le vit ainsi en décembre 1977, donner le tournis aux défenseurs égyptiens, battu 4-1, offrant ainsi à son pays un ticket pour le Mondial 78 argentin. En Argentine, Temim crève l'écran. D'abord face aux Mexicains, battu 3-1, puis contre les Polonais malgré la défaite 1-0. Et enfin face aux Allemands, score final 0-0. Il dribble, déborde, multiplie les services précis. Le public argentin est charmé. La Tunisie ne franchit pas le premier tour, mais son numéro 7 figure dans la sélection mondiale qui sera invitée par le Cosmos de New York pour le jubilé du roi Pelé. Temim, c'est d'abord une taille réduite et des cuisses puissantes. Comme tous les joueurs courts, de la vélocité et le sens de l'équilibre. Un ailier au démarrage fastueux sur la droite, un dribbleur exceptionnel, inventif et rusé. Un maestro du contre-pied, surnommé par ses admirateurs le 7 de carreau. Le 7 juillet 1979, les dirigeants de l'Olympique de Marseille sont venus accueillir leur dernière recrue à l'aéroport de Marignane. Lazemi Temim, passeport numéro 189-170. Les Marseillais avaient traversé la Méditerranée quelques jours plus tôt, le 2 juillet exactement, pour aller à Tunis disputer un match amical contre l'Espérance. Contact fut alors pris avec Temim, l'ailier droit, dont Josip Skoblar, alors directeur sportif, n'avait pas voulu 2 ans auparavant, sous prétexte qu'il était trop vieux. Temim est né le 1er janvier 1949. À 30 ans, on est loin d'être un joueur fini, surtout quand on a la classe de l'ailier droit et que l'on est capitaine de l'équipe de Tunisie. C'est ce dont est persuadé l'entraîneur Jules Vunca, qui a ainsi trouvé un remplaçant à Sar Boubacar, émigré à Paris. Temim fut d'ailleurs le seul professionnel tunisien à avoir disputé la Coupe du Monde 1978, car il avait su, un an avant le Mondial, monnayer ses services en Arabie Saoudite. L'international tunisien a débarqué à Marseille pour la somme de 100 millions de centimes, soit 49 000 euros environ, pour 2 ans. L'OM dispose avec Temim d'un ailier au dribble magique et aux feintes de charmeur de serpent. Un tantinet individualiste, mais capable aussi bien de faire marquer des buts que d'en marquer lui-même. Un Magnusson des sables, en quelque sorte. Avec Temim, le visage de l'OM 79-80 se précise. Bollier, Boubacar et Brassi ne sont plus là, mais Truqui et Ngom reviennent. Zambelli renforce la défense aux côtés de Trésor. Avec Temim et Six, c'est toute la largeur de la pelouse du stade Vélodrome qui allait souffrir. Et ce n'est pas le jardinier de l'Olympique de Marseille qui s'en plaindrait. Or, l'idylle avec l'OM ne dure qu'un été. Décembre 79, Temim rachète son contrat, une poignée de francs de l'époque, et retourne à Tunis. En réalité, il reprend pour une année de service à l'Ittihad de Jeddah en Arabie Saoudite. Il regagne ensuite son club formateur, le club sportif Hammam Lif, où il boucle 2 saisons avant de raccrocher en 1984. Un Olympien président. Je vais vous raconter l'histoire incroyable de Ahmed Ben Bella. Ahmed Ben Bella, né en décembre 1916, rejoint la France au milieu des années 30 pour y faire son service militaire à Marseille comme tirailleur d'infanterie alpine. À son actif notamment, un avion allemand qui survolait le ciel marseillais. Un acte héroïque dont il fut décoré de la Croix de guerre. Il se plaît dans la cité phocéenne, il y fait ses classes, et nommé adjudant. Mais avant de connaître les horreurs du champ de bataille, Ben Bella connaît l'ennui derrière le front. Il continue tout naturellement à jouer au football avec ses copains de caserne. Mais ce colosse d'1m80 ne s'en tient pas aux rencontres entre soldats. Mezzani, alias Ben Bella, fut d'abord gombertois, c'est-à-dire joueur du club du quartier de Château-Gombert, situé dans le 13e arrondissement de Marseille. Puis, durant quelques mois, d'avril à juin 1940, il fut olympien. Il disputa un seul match officiel, le 21 avril 1940, c'était au stade des Hespérides de Cannes, contre le FC Antibes pour le compte de la 10e journée de la saison 39-40. Victoire olympienne 9-0, avec un but de Ben Bella en deuxième période. Celui qui sera emprisonné 22 ans de sa vie, qui fut plus tard l'un des responsables du FLN et président de la République algérienne entre septembre 63 et juin 65, avait affronté plusieurs fois l'OM lors de rencontres d'entraînement, comme le 10 mars 1940 par exemple avec l'équipe amateur des mitrailleurs de la 2-15. C'est peut-être la raison pour laquelle il fut repéré et porta le maillot blanc. Opposant au pouvoir, Ahmed Ben Bella est décédé le 11 avril 2012, à l'âge de 95 ans, laissant derrière lui l'incarnation de la lutte en faveur de l'Algérie libre, l'image d'un combattant obstiné. Abedi Pelé. Je vais vous raconter la fabuleuse carrière du triple ballon d'or africain Abedi Ayew, baptisé Pelé. Que de heurts et de malheurs dans la carrière d'Abedi Ayew Pelé, idole de son pays, le Ghana, longtemps méconnu en Europe. Que de chemin parcouru depuis les débuts de ce jeune tailleur de pierre de Domé. Un itinéraire étrange, souvent contrarié, plein d'impasses et de fausses pistes qui le conduisent d'abord au nord de son pays, à Tamale, où, sous les couleurs du Real United, il devient le plus jeune vainqueur de la Coupe nationale. Un succès qui fait de lui un international à 17 ans, quelques mois à peine avant la fulgurante consécration sur le continent africain, car en 1982, Abedi et le Ghana remportent en Libye la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui, tapis rouge et discours à l'appui, lui vaut d'être officiellement et définitivement baptisé Pelé par le président de la République ghanéen en personne. Le petit prodige prend la direction du Qatar et El Sadd Doha, puis du Bénin sous la tunique des Dragons de Loum, où il est tout autant rétribué à prix d'or alors qu'il aurait pu rejoindre la Suisse et le club de Zurich. Il tente alors sa chance en France. Mais ni à Nantes, ni à Saint-Étienne, son talent convainc, notamment Pierre Garonner, le recruteur stéphanois. Retour à Tamale, au nord du Ghana, où il enchaîne à nouveau les exploits. Si bien qu'en 1986, Niort, un modeste club de Division 2, lui offre un contrat professionnel. Les Chamois niortais accèdent alors à la Division 1 grâce à leur prodige ghanéen, auteur de 15 buts. Ces coups d'éclat suscitent l'intérêt de plusieurs écuries prestigieuses. Mais la convoitise de Bernard Tapie l'attire sur la Canebière en 1987, avant de le prêter à Mulhouse en raison de la présence des deux Allemands Foster et Alof. Pas de place pour un troisième étranger. Vendu ensuite à Lille, il hérite d'un passeport français et se révèle enfin. Un prélude à son retour à Marseille en 1990, où sous la direction de Raymond Goethals, ce créateur aux accélérations fulgurantes et imprévisibles, vit 30 mois inoubliables marqués par deux finales européennes, la première à Paris et la seconde à Munich. Trois fois champion de France en 91, 92 et 93, triple ballon d'or africain les trois mêmes années, il rejoint en 1994 Jean Tigana à Lyon avant d'éclabousser le rugueux Calcio sous la tunique Grenat du Torino, épaulé par un autre champion d'Europe olympien, Jocelyn Angloma. Avant d'achever sa carrière dans le golfe persique, Abedi a fait un passage remarqué en Bundesliga avec le club de Munich 1860. À la vérité, tout n'a pas été facile pour ce Black Star. Une rencontre symbolise toutes ces années de travail et de sacrifice. Cette confrontation avec l'AC Milan au printemps 1991. Le match aller, disputé à San Siro le 6 mars, lui confère une nouvelle dimension. Impressionné, la presse italienne le désigne d'ailleurs « homme du match ». Abedi Pelé a disputé 149 matchs avec l'OM et inscrit 30 buts entre 1990 et 1993. Abedi Ayou Pelé, ce gaucher de charme au gabarit assez moyen, possède un dribble ondoyant et un talent précoce qui lui ont valu d'être reconnu par le milieu comme l'un des tout meilleurs joueurs africains de tous les temps. D'autant que la relève est assurée par ses deux enfants, formés et passés par l'Olympique de Marseille.
On est Marseille à vie.